C'est l'heure des infos sur France Culture. Le journal tout de suite vous est présenté par Antoine Mercier. Bonjour Antoine.
Bonjour Olivia, bonjour à tous. Casse du code du travail ou évolution du modèle social? Les avis restent très partagés au lendemain de la publication des ordonnances qui réforment le code du travail. Analyse dans un instant avec Justine Dinchet et Sophie Delpont. Laurent Wauquiez officialise sa candidature à la présidence des Républicains. Il affiche l'ambition de faire renaître l'espoir à droite et de reconstruire son camp donc sur des valeurs claires. Commentaire avec Ludovic Piétenu. Européens et Britanniques se rejettent ce matin la responsabilité du peu de progrès dans les négociations sur le Brexit, qui butent principalement sur la question de la facture de sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. On sera en ligne avec Pierre Benazé à Bruxelles. La Cour suprême du Kenya qui invalide les résultats de la présidentielle, qui avait vu la victoire du président sortant Kenyatta, proclamé donc vainqueur. Correspondance et conséquences avec Bruno Meyerfeld à Nairobi. L'Irak célèbre aujourd'hui la reconquête de Tal Afar, considérée comme une victoire clé contre le groupe islamique. On fera un point sur les combats avec Éric Biegala et puis l'invité de la séquence interview, notre confrère Éric Routier, auteur d'un livre sur Anne Hidalgo intitulé « Notre drame de Paris ». Dans la dernière partie donc de la grande table, Olivier Gesbert.
Par la famille, ou plutôt par les structures familiales, l'historien et anthropologue Emmanuel Todd apporte aujourd'hui son éclairage sur ce moment inégalitaire de l'histoire humaine, cet âge de la régression qui ferait basculer nos démocraties dans la crise, le pourquoi du comment ou comment y parvient-il. En tout cas, il nous explique tout ça à partir de 12h55.
24 heures donc après la publication de ces ordonnances, les commentaires, les appréciations restent très contrastés sur le contenu des textes qui vont réformer le code du travail. Côté syndical, la division est très nette entre d'une part la CGT de Philippe Martinez, pour qui c'est la fin du contrat de travail, et d'autre part Force ouvrière, pour qui ce n'est pas du tout la casse du code du travail. Le modèle social n'est pas remis en cause, répétait ce matin Jean-Claude Mailly. Il faut qu'on confronte nos positions, répondait Philippe Martinez. Peut-être parce qu'on a raté des trucs, mais peut-être que eux aussi, ils en ont raté. Bref, on n'y voit pas très clair. Il y a Laurent Berger un peu au milieu pour la CFDT qui estime que la deuxième étape, maintenant, ce sont les embauches et que c'est le patronat qui est mis devant ses responsabilités. Justine Dinchet, bonjour.
Bonjour.
Un même texte, donc, et là, des interprétations extrêmement différentes qui vont dans tous les sens. Il faut que vous nous éclairiez un petit peu.
Alors, les positions s'affinent, même si globalement, c'est le flou quant à déterminer à qui profite vraiment cette réforme. On pourrait classer les syndicats en quatre catégories en fonction de la largeur de leur sourire, leur degré de satisfaction. D'abord, il y a les syndicats ravis, comme les représentants des artisans et des toutes petites entreprises, ou la CPME qui salue des ordonnances en phase avec les réalités du terrain. Deuxième niveau, les syndicats méfiants, mais pas totalement mécontents, à l'image de Force ouvrière. D'après Jean-Claude Mailly, il y a des reculs dans cette loi et il y a des avancées. Le modèle social n'est, dit-il, pas remis en cause. Troisième catégorie, les déçus un peu résignés. C'est le cas de la CFDT qui est déjà dans l'après-annonce en demandant au patron d'embaucher. Et puis enfin, il y a les fermes opposants. Philippe Martinez de la CGT répète inlassablement la même chose. Ces mesures, c'est plus de pouvoir aux chefs d'entreprise et moins de droits aux salariés. Alors face à ces nouvelles réactions contrastées, Christophe Castaner, porte-parole du gouvernement, a livré son interprétation laconique. Non, ce n'est pas le MEDEF qui a gagné, sinon la CFDT et Force ouvrière bloqueraient le système.
Il y aura sans doute maintenant une phase de décantation pour que les salariés, l'opinion en général, se fassent peut-être une opinion plus précise. Mais il y a déjà certains signes qui montreraient que la réforme ne passe pas si bien que cela à la base, et à commencer par Force ouvrière.
Oui, parce que pour l'instant, on l'a dit, seule la CGT et Solidaires appellent à manifester le 12 septembre. Les autres ont dit non. Et effectivement, certains militants de Force ouvrière passeront outre la consigne du bureau confédéral. La Fédération du transport, par exemple, appelle à manifester aux côtés de la CGT. D'autres unions départementale de Force ouvrière devrait aussi désobéir. Celle du Finistère a déjà annoncé par voie de communiqué une manifestation à Brest en rappelant qu'elle, eh bien, elle ne changeait pas de discours en fonction du président de la République en place. Sur les réseaux sociaux, les messages de contestation fleurissent depuis hier. Exemple avec ce militant isérois. « Je me moque de votre avis de girouette opportuniste. Moi, je manifesterai », déclare-t-il. Interrogé sur ses divisions au sein de son propre clan, Jean-Claude Mailly a déclaré qu'il y avait, je cite, « toujours eu des grognards fidèles et des grognons râleurs dans l'histoire de Force ouvrière ».
Justine Dinchet, merci. Écho des divergences syndicale maintenant sur la suite des événements. Le secrétaire général de Force ouvrière donc était sur BFM Télé ce matin, suivi de celui de la CGT qui était lui sur France Info. On les écoute.
Bah, tout simplement parce que le vrai combat, il a eu lieu pendant 3 mois. Ça fait 3 mois de discussions intenses où on a fait bouger des choses, on n'a pas tout fait bouger, ils ont tenu compte, ils n'ont pas tenu compte. Ça a été du non-stop pendant 3 mois. C'est là qu'il fallait faire le... C'est pas quand le match est fini qu'il faut faire une manif. Parce que là, le match, le timing, c'est quoi maintenant? 22 septembre, Conseil des ministres, dans la foulée, les ordonnances
sont publiées. Donc le 23, vous n'appelez pas les militants Force ouvrière à descendre dans la rue aux côtés de la France insoumise?
Ah bah non, par définition, non. On n'appelle jamais une manifestation politique.
Vrai. Je ne me mêle pas de ce qui se décide à Force ouvrière. Moi, sur le terrain, ce que je vois, il y a déjà 65 manifestations de prévues. Sur les 65 manifestations en territoire, il y a déjà 15 structures territoriales de Force ouvrière qui ont décidé de rejoindre ces cortèges. Donc il doit y avoir aussi des débats comme chez nous. Quand les syndicats sont divisés, c'est toujours plus difficile. Parce que les salariés ne comprennent pas. Vous êtes là pour défendre nos intérêts et vous vous tapez dessus, entre guillemets. Le patronat est jamais divisé, jamais divisé. Donc oui, il faut expliquer aux salariés, c'est toujours plus compliqué.
Philippe Martinez, donc ce matin, en réaction à ces ordonnances, il y aura donc cette journée de grève et de manifestation le 12 septembre prochain, puis la mobilisation plus politique à l'initiative de la France insoumise, mais cette protestation s'organise, on le voit, plutôt en ordre dispersé, Sophie Delpont.
L'opposition politique reste divisée entre deux dates, deux rendez-vous, deux moments clés pour la démonstration de force dans la rue face aux ordonnances. Le mouvement de Jean-Luc Mélenchon souhaite élargir le périmètre de la contestation et faire du 23 septembre la première manifestation nationale d'opposition politique à Emmanuel Macron. Une marche contre l'ensemble de la politique sociale du gouvernement, contre la baisse des APL, la réforme du Code du travail et le traité de libre-échange entre le Canada et l'Union européenne. Sauf que les autres forces politiques refusent de s'aligner derrière sa bannière, à l'image du Parti communiste qui dénonce une volonté hégémonique du mouvement de Jean-Luc Mélenchon. Même position chez Europe Écologie Les Verts, chez les socialistes ainsi qu'au NPA, dont les leaders refusent de participer au sacre de la France insoumise comme seule force d'opposition. Dans les rangs du mouvement de Jean-Luc Mélenchon, on parle de complémentarité et non de concurrence, avec d'un côté la contestation syndicale du 12 septembre en semaine, à laquelle les députés France insoumise appellent à participer, et de l'autre une marche de revendication politique le week-end où le peuple est appelé à déferler. Jean-Luc Mélenchon et le secrétaire général de la CGT ont prévu de se rencontrer mercredi prochain pour mettre sur la table ce sujet brûlant.
Sophie Delpont, merci. On salue l'invité de la séquence interview, Éric Routier, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes éditorialiste à Challenge. Avec cette division qu'on voit, qu'on vient de décrire, est-ce que vous diriez qu'Emmanuel Macron est en passe de réussir, de franchir cet obstacle, pas si évident que ça, réformer le droit du travail?
Il est sur la bonne voie, oui. D'autant que l'objectif a été atteint, les syndicats sont divisés. Il y a eu recul sur un point essentiel qui était l'inversion des normes. Il a focalisé sur les petites entreprises, avec surtout une idée forte, c'est que la relation patron-employé n'est pas structurellement conflictuelle, et en tout cas dans les PME. Et ça, c'est une avancée idéologique forte en France. Et bon, après, peut toujours y avoir un clash. Ça peut arriver, des étudiants...
Oui, parce qu'il y aura d'autres réformes aussi.
Mais en même temps, les réformes touchent à d'autres. Il y aura d'autres réformes et donc on va se battre sur d'autres... Il y aura des conflits sur d'autres réformes, on va oublier la précédente. C'est une sorte de dynamique qui peut être efficace. Sauf s'il y a un clash, tout d'un coup, qui peut arriver.
Éric Routier, merci. On vous retrouve donc pour la séquence interview. On va parler de votre livre sur Anne Hidalgo.
La suite de votre journal, Antoine Mercier. Après les différents traumatismes électoraux du printemps, la droite tente de se réorganiser. Laurent Wauquiez officialise sa candidature à la présidence des Républicains et affiche l'ambition de faire renaître l'espoir à droite.
Oui, il faut que la droite soit vraiment la droite, dit-il. C'est dans le Figaro ce matin, le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Alors le calcul est simple, Ludovic Piétenu, il y a un centre qui est maintenant bien occupé, complètement occupé par le mouvement macroniste. Et donc, pour la droite, il faut revenir par l'aile droite dans le jeu politique.
Oui, il faut reconquérir aussi l'électorat capté par Marine Le Pen, plus de 10,5 millions de voix au second tour de la présidentielle. Laurent Wauquiez nous apprend, le Figaro Magazine ce matin partage l'analyse de François Fillon qui lui a dit ceci: la droite n'est pas morte, ceux qui gagneront seront ceux qui assumeront de porter la parole de la droite. Pour lui, défendre l'autorité, la laïcité, le travail, l'effort, les classes moyennes, ce n'est pas d'extrême droite, ce sont au contraire, dit Laurent Wauquiez, les valeurs centrales de la droite, celles, je cite, qui composent compose notre ADN. Laurent Wauquiez, 42 ans, dont on apprend qu'il se teignait les cheveux en poivre et sel pour paraître plus expérimenté, a depuis ses débuts en politique en 2004 comme député, à seulement 29 ans, Antoine, avant d'être 3 ans plus tard ministre de Sarkozy, Laurent Wauquiez a toujours tenu le même discours. Le 14 juillet, encore dans un entretien au Monde, il revenait sur le débat d'entre-deux-tours. Marine Le Pen est apparue avec le visage de l'agression, de la caricature, de l'incompétence. C'est donc une opportunité pour nous de convaincre ces Français que nous avons perdu par nos lâchetés de nous rejoindre. Une séduction de cet électorat avec des thématiques frontistes apparaît comme la stratégie de Laurent Wauquiez. Une stratégie d'abord pour se faire élire par les militants des Républicains qui forment un noyau, un petit noyau de 250 000 adhérents que Wauquiez pense majoritairement sensible à ses thèses. Ensuite seulement, il promet le rassemblement pour mordre sur cet électorat de droite qui ne regarde pas Emmanuel Macron d'un si mauvais œil. En cela, il affirme au Figaro Magazine retenir ce que lui a dit le vieux sage Alain Juppé, il faut absolument combattre l'illusion Macron qui repose sur la confusion des valeurs.
Ludovic Piétonnier, merci beaucoup. Vous avez vu que j'éteins quelques de mes cheveux en blanc, hein, voyez-vous. Les négociations sur le Brexit sont toujours au point mort, alors qu'une bonne partie du temps imparti pour organiser ce divorce est maintenant écoulée. On en est presque au tiers du temps, finalement. Européens et Britanniques se rejettent mutuellement la responsabilité du peu de progrès qui ont été enregistrés dans ces négociations. Ça bute principalement sur la question financière, la facture de sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. On est en ligne avec Pierre Benazé à Bruxelles. Bonjour.
Bonjour Antoine.
Quels sont donc les termes du débat sur cette question de la dette britannique que Londres ne reconnaît que très partiellement ?
Toute la question, c'est précisément celle-là, celle de la reconnaissance par le Royaume-Uni de l'existence même de cette dette. Selon les Européens, le Royaume-Uni a pris des engagements à long terme lorsque l'UE a négocié âprement, comme toujours, les perspectives financières, c'est-à-dire le budget septennal qui court de 2014 à 2020. Et à ce titre, les Européens estiment de leur côté que le Royaume-Uni doit honorer toutes les promesses financières calculées pour un budget à 28 États et que les contribuables des 27 pays restants n'ont pas à supporter seuls l'absence de l'importante, il faut le dire, l'importante contribution britannique prévue initialement. Ça concerne d'une part les budgets courants de l'UE, comme la politique agricole commune, mais aussi les programmes humanitaires en faveur des pays d'Afrique, ou bien les engagements au titre de la recherche scientifique. On peut aussi évoquer la délicate question de la retraite des fonctionnaires européens britanniques, ou encore les frais liés au déménagement des agences européennes actuellement implantées outre-Manche. Le point de vue du Royaume-Uni n'est pas clairement établi, mais en tout cas, le négociateur britannique refuse que ses contribuables payent. Le ministre des Affaires étrangères parle d'un montant exorbitant, et plusieurs ministres affirment que les engagements britanniques doivent s'éteindre avec le dernier versement en 2019 de la contribution de Londres pour le budget commun. C'est donc déjà la quadrature du cercle, mais c'est encore que le début parce que les négociations n'ont pas véritablement commencé sur le calcul ligne budgétaire par ligne budgétaire et le montant n'est toujours pas établi, même si on parle de 50 à 100 milliards d'euros.
Donc pas de progrès du tout, mais alors Pierre Benazé, qu'est-ce qui se passerait si rien ne se passe ?
D'abord, cette question, ça fait partie, avec l'Irlande, puis les droits des citoyens, des priorités européennes. Tant que ces trois points-là ne seront pas résolus, l'Union n'ouvrira pas les négociations parallèles sur la future relation euro-britannique. Dans le cas d'un échec des négociations, on s'orienterait vers une sortie dans le désordre du Royaume-Uni de l'UE. S'ouvrirait alors une période de complète incertitude avec le rétablissement des frontières, même en Irlande. Une période où les relations aussi entre le Royaume-Uni et l'Europe seraient régies uniquement par des conventions internationales, comme par exemple les règles de l'Organisation mondiale du commerce, ce que les négociateurs veulent évidemment éviter à tout prix pour l'instant.
Pierre Benazé, en direct de Bruxelles. Emmanuel Todd, vous êtes donc l'invité de la dernière partie de la Grande Table. Vous trouvez dans votre livre des mérites quand même à Madame May, aux conservateurs britanniques dans cette affaire, mais est-ce que le Royaume-Uni ne va pas perdre beaucoup ou ne risque pas de perdre beaucoup dans cette rupture ?
Non, la Grande-Bretagne, l'Angleterre, comme on disait autrefois pour tout le monde, a repris sa liberté. Donc l'Angleterre est en train de redevenir une démocratie. D'une certaine manière, c'est la seule d'Europe avec l'Allemagne qui est également maître de son destin. Et ça a un coût, en fait, la liberté. Donc ça suppose des problèmes de transition. Je suis un peu inquiet de la tournure que prennent les choses, puisqu'après tout, les Anglais partent, c'est leur droit, les Français veulent rester, c'est leur droit, et tout le monde devrait s'arranger de cette situation. En fait, l'idée d'une crise n'est pas... La crise n'est pas un but. Ce qui me fait peur, c'est que je sens monter une sorte d'agressivité. Je sens une attitude assez dure chez les Européens du continent qui se sentent forts. Et j'ai un peu peur que l'Europe va très mal, en fait. La France va très mal, on est à 10% de chômage, on ne va pas en sortir. Et j'ai peur que les dirigeants européens, les uns et les autres, de diverses nationalités, ne s'engouffrent dans ce conflit pour échapper à leurs propres contradictions. Et j'ai également peur en tant que citoyen français, parce que si on en vient, après tout, la guerre de nos jours est économique, c'est des problèmes économiques, et en fait, il y a des menaces de guerre économique derrière. Et je veux dire, je recommande vivement à nos politiques de relire leurs manuels d'histoire du secondaire. En fait, on n'a jamais gagné une guerre contre les Anglais. On ne bat jamais l'Angleterre.
On ne bat jamais l'Angleterre. Où en sommes-nous? C'est le titre de votre livre qu'on peut conseiller aussi, évidemment, à tous les responsables politiques. Emmanuel Todd, on en parle dans la dernière partie de la Grande Table.
France Culture Midi 47, la suite du journal d'Antoine Mercier. Coup de tonnerre à Nairobi. Contre toute attente, la Cour suprême du Kenya, qui avait été saisie par l'opposition, invalide les résultats de la présidentielle, à l'issue de laquelle le président sortant, Kenyatta, avait été proclamé vainqueur.
Oui, et elle ordonne la Cour la tenue d'une nouvelle élection d'ici 60 jours. Cette élection n'a pas été conduite en accord avec la Constitution. Quelles conséquences pour la suite, Bruno Meyerfeld?
Des klaxons, des cris enthousiastes et beaucoup de questions et d'inquiétudes. C'est un véritable coup de tonnerre qui est tombé sur Nairobi ce matin, après la décision de la Cour suprême invalidant le scrutin du 8 août. Raila Odinga, évidemment, s'est réjoui, a salué un jour historique pour le Kenya, mais aussi pour l'Afrique, a dénoncé l'attitude de la commission électorale, disant ne plus avoir confiance en elle et vouloir poursuivre ses responsables en justice. Alors, le jugement est effectivement une surprise, une première, mais une première contestée. Deux des sept juges de la Cour suprême ont ouvertement critiqué le verdict et la Cour n'a pas précisé les raisons exactes de son jugement. On attend encore des précisions sur ce sujet, mais d'abord et surtout la parole du président Kenyatta. Pour lui, la décision est une gifle, une humiliation. Et si une nouvelle élection doit bien se tenir d'ici 60 jours, nul ne sait s'il sera un nouveau candidat.
L'Irak célèbre aujourd'hui la reconquête de Tal Afar, considérée comme une victoire clé contre le groupe État islamique. Les forces irakiennes annonçaient hier avoir reconquis cette ville, ainsi que la totalité donc de la province septentrionale de Ninive. Après ce revers, l'État islamique qui s'était emparé, il faut le rappeler, en 2014, de près d'un tiers de l'Irak, ne tient plus maintenant qu'une ville au nord de Bagdad, trois localités du désert frontalier de la Syrie, ça veut dire à peu près 10% de la superficie du pays. Eric Bigala, bonjour.
Bonjour Antoine.
Est-ce que la libération complète maintenant de l'Irak, en tout cas, est proche?
C'est en tout cas ce qu'estimait hier le Premier ministre irakien Haïdar Al-Abadi, car pour ce qui est du contrôle territorial en Irak, l'État islamique aujourd'hui n'est plus réduit qu'à deux poches, celle d'Awija, 250 km au nord de Bagdad, dans la province de Kirkouk. Ce devrait être logiquement le prochain objectif de l'armée irakienne. D'ailleurs, on signalait ce matin dans la région l'arrivée sur place d'un premier convoi de véhicules militaires irakiens, laissant présager un assaut dans les prochains jours. L'autre morceau de territoire irakien encore sous le contrôle des djihadistes, c'est la moyenne vallée de l'Euphrate, à la frontière entre l'Irak et la Syrie. Les djihadistes y tiennent un chapelet de villes moyennes qui s'égrènent le long du fleuve, 3 en Irak et 6 en Syrie, ainsi que les alentours largement désertiques. En tout, c'est 300 à 350 km de terrain de part et d'autre de la frontière syro-irakienne, et tout ce qui reste de la Vilayat al-Furat, la province de l'Euphrate, et en gros tout ce qui reste du califat d'Abou Bakr al-Baghdadi. C'est probablement là d'ailleurs que se concentrent encore les dernières forces de l'État islamique et ses principaux cadres, dont peut-être le calife autoproclamé lui-même, s'il n'a pas été tué. En juillet, l'Observatoire syrien des droits de l'homme, qui dispose en Syrie d'un vaste réseau d'informateurs, avait dit croire qu'Abou Bakr al-Baghdadi était bel et bien mort, et ce sur la base de propos de dirigeants de l'État islamique recueillis dans la province. Les villes de la Vilayat al-Furat sont régulièrement bombardés, tant par les avions de la coalition internationale que par l'aviation russe. Et la Russie avait elle aussi annoncé en juillet que le calife avait été tué dans l'un de ces bombardements. Hier, le patron militaire de la coalition, le général américain Stephen Townsend, estimait lui qu'al-Baghdadi était probablement toujours en vie et se cachait vraisemblablement dans la vallée de l'Euphrate. Territorialement, en tout cas, l'État islamique ne représente donc plus grand-chose. En revanche, il est toujours aussi présent dans le monde virtuel. Au moins 10 vidéos de propagande ou de combat, toujours aussi bien réalisées techniquement, ont été postées sur la toile durant le mois d'août, une tous les trois jours.
Eric Bigala, la guerre des sanctions et des représailles entre Moscou et Washington a repris aujourd'hui. Fermeture prochaine du consulat russe à San Francisco, ordonnée par la Maison Blanche. Décision qui intervient donc après que près des deux tiers du personnel des représentations diplomatiques américaines en Russie ont quitté le pays. beaucoup. 12h51, retour vers notre invité de la séquence interview, Éric Routier, pour son livre sur Anne Hidalgo, notre drame de Paris, que vous avez lu pour nous, Ludovic Piétenu.
Tout à fait, aux éditions Albin Michel. Éric Routier, qu'avez-vous voulu dire dans ce livre? C'est une question simple, hein, ce livre que vous qualifiez d'enquête sur la maire de Paris. Qu'avez-vous voulu dire? Quel était votre propos, l'objectif de ce enquête. Livre?
J'étais trouvé très étonnant que... La maire de Paris a été très protégée, alors que Delannoy ne l'avait pas été.
Et n'était pas critiquée.
Elle n'a pas été critiquée.
Non, son prédécesseur l'était pas.
Si, Delannoy l'était. Ah. Au contraire.
Et elle protégée.
Elle a été protégée. Il n'y a pas eu de critique. Or, sur le plan financier, la ville va dans le mur. On va vers 7 milliards de dettes. La Chambre régionale des comptes avait dit au-delà de 3 milliards, on est dans le mur. Bon, normalement. Mais la droite parisienne ne dit rien, la presse n'a rien dit. J'ai trouvé très étonnant ce silence.
Vous avez compris pourquoi elle est protégée, finalement, après l'enquête?
Moi, attendez, c'est une question... Je pense que c'est parce que c'est une femme, et je pense que, comme d'habitude en France, maintenant, ça va être le contraire. Elle va être accablée, je pense. Il y a cette espèce d'ambiguïté... mais c'est une opinion personnelle, je n'en suis pas convaincu.
Vous lui reprochez donc cette mauvaise gestion financière, vous lui reprochez d'être plus dogmatique que Bertrand Delannoy, vous lui reprochez bien sa communication à outrance, le fait qu'elle n'écoute plus. C'est ça que vous avez voulu lister dans ce pamphlet.
Il y a bien d'autres. Mais par exemple, sur la circulation, tout le monde a compris ce qu'il en est. Je veux dire, dans toutes les villes du monde, on réduit la voiture, c'est légitime, c'est normal. Delannoy, qu'est-ce qu'il avait fait? Il avait fait les quartiers Montorgueil, des quartiers comme ça. Partout dans les villes du monde, les quartiers étroits, avec les rues étroites, on les rend piétons. Mais les artères... C'est les artères de la ville, on les laisse fluides. Et elle a fait le contraire, c'est-à-dire que fermer des grands axes, elle le fait de façon plus punitive. Elle s'est opposée à Ségolène Royal, à beaucoup d'écologistes. C'est abat les voitures.
Donc ça, c'est central dans le bouquin, Antoine, pour l'avoir lu. C'est presque une lubie, Éric Routier.
Non, ça s'appelle Grand Bordel à Paris, c'est ça?
Non, c'est pas une lubie. Je le prends pas sur le...
Ah, mais il y en a dans toutes les pages, y compris dans les chapitres qui, a priori, ne concernent pas la circulation.
Je prends pas sur le...
Mais il faut peut-être nous dire quand même comment tout ça fait système, finalement. Cette personne, vous l'accablez de beaucoup de... Enfin, vous dites qu'elle a beaucoup de défauts, que sa gestion est calamiteuse à peu près dans tous les domaines. Comment comprendre ce personnage-là? Comment vous l'expliquez? Comment vous le cernez?
Ben c'est un mystère, donc c'est pour ça qu'on a fait un livre, mais c'est une apparatchik, fille d'immigrée, inspectrice du travail, très, très marquée à gauche, qui a grimpé au PS avec le soutien massif, constant de François Hollande comme premier secrétaire, puis comme président de la République. Elle n'a jamais été élue au suffrage universel direct, toujours par le suffrage... par liste. Donc c'est une apparatchik qui a réussi et qui... elle était première adjointe de Delannoy. Delannoy a un attentat et elle prend le contrôle et après elle a pris le pouvoir même à Delannoy.
Ludovic Piétenu.
Dans différentes interviews, vous dites, vous, citoyen Éric Routier, vous dites c'est normal de diminuer la voiture, par exemple. Sauf que dans votre livre, vous n'avez de cesse de parler de ce sujet, vraiment, vous agacez en permanence des bouchons, des difficultés de circulation. Est-ce que vous êtes pour ou contre la diminution de la circulation dans les villes?
Oui, je suis pour la diminution dans les villes, mais je ne parle pas... Vous savez qu'à Paris, la moitié des gens n'ont pas de voiture, et dans ceux qui ont une voiture, la moitié ne
l'utilise
que le week-end. Donc c'est 25%. Moi, je défends les minorités. Et c'est pas parce qu'on a une voiture ou qu'on est un mâle de...
Qu'on utilise ça que le samedi, qu'on doit être sanctionné.
Il faut respecter les minorités. Toutes les minorités.
Alors vous dites quand même, j'énumère un peu parce qu'il n'y a pas que la voiture, saleté beaucoup. Croissante des rues.
Ah oui, ça, les rats sont de retour.
Bon, je sais pas si vous le constatez, vous, Emmanuel Todd, vous avez des
rats. Les problèmes de voiture, je serais plutôt d'accord. Les rats, j'ai rien vu encore.
Alors les rats, vous citez
je
le square Carpeau.
Je suis pas engagé dans ces questions.
Par exemple, vous citez le square Carpeau dans le 18e arrondissement. Vous dites, ils ont utilisé des produits chimiques pour dératiser, qui rendraient presque les particules fines égales à l'eau de Cologne.
Oui, c'est moi.
C'est bon, c'était ironique, évidemment. Vous êtes conscient de la mortalité des particules fines. Vous êtes conscient du problème, quand même.
Pas du tout. Alors là, pas du tout. C'est un sujet extrêmement compliqué. qui ne mérite pas de slogan ni de truc définitif. Donc je dis pas que c'est bien les particules fines, mais je constate que l'espérance de vie dans les grandes villes et en Paris ne cesse d'augmenter chaque année. Je veux dire, donc ces choses-là doivent être vues avec distance. Et
mais est-ce que vous lui en voulez personnellement pour finir?
Pas du tout.
Ah bon?
Pas du tout. Pourquoi j'en voudrais personnellement?
Je sais pas.
Ah, parce qu'on a le sentiment que votre livre s'inscrit un peu dans une démarche, comme un livre de commande, que vous voulez la déboulonner pour les municipales de 2020, en gros.
Ah, mais pas du tout. Elle serait de droite, ce serait pareil. Hein. C'est pas du tout mon sujet. Ce qui est vrai, c'est que c'est un livre d'enquête et que le ton est impertinent.
Et pourquoi vous êtes misogyne dans ces qualificatifs, la belle brune, la...
Je suis pas misogyne du tout.
La gourou de la secte écolo, la potiche de la
c'est un ton impertinent. Ça vous dérange qu'un livre soit
la misogynie
drôle
peut être
Il est drôle, ce livre.
Voilà.
Bon.
Alors, les auditeurs vont s'en faire une idée, puisque votre livre sort aux éditions Albin Michel, Notre drame de Paris. Tout est dit aussi un peu dans le titre. Merci beaucoup, Hervé Routier, d'être venu dans ce studio. Un temps plutôt frais et perturbé, les températures partout en dessous des moyennes saisonnières, 17 à 24 degrés sur le nord-ouest, l'est et le sud, 25 à 31 quand même sur le pourtour méditerranéen et sur la Corse. Édition réalisée avec Yacine Bouzard, 17h, magazine de la rédaction Cherche logement désespérément, reportage de Lise Verbeck, réalisé par Annie Brault, présenté par Aurélie Kiffer. 18h prochain journal, Anne Fauquemberg.